Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, canal 23 de la TNT. On est toujours avec Rémi Barré, avec le journaliste de Marianne Perico-Légas, la militante associative Anne-Sophie Sinter et le journaliste RMC, bien sûr, Daniel Riolo. Dans un instant, on va évoquer cette mairie qui a interdit la création de nouvelles piscines dans sa commune à cause de la sécheresse. Est-ce qu'il faut interdire de construire des piscines aujourd'hui en France? Dites-nous ce que vous en pensez au 32-16 et si par exemple vous envisagiez de faire construire une piscine et que ça risque de capoter. 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. Et évidemment, on reviendra sur le nouvel échec du Paris Saint-Germain en 8e de finale de la Ligue des Champions, défaite 2-0 hier face au Bayern. 13h45, ce sera la minute conso avec Stéphane Pedrazzi. Et mauvaise nouvelle, énorme hausse du prix des billets d'avion. Enfin, se dépêcher si vous voulez partir en avion parce que ça a énormément monté. À 14h, seuls 56% des 55-64 ans sont en emploi aujourd'hui en France. Doit-on interdire le licenciement des seniors en entreprise? 14h30, ce sera RMC s'engage pour vous. On va revenir sur la prime carburant de 100 euros que 10 millions de Français devaient toucher. Eh bien, bizarrement, ça ne marche pas, hein, bien sûr. On va quand même essayer d'aider tous ceux que le dispositif a oublié. Et puis, on terminera avec les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui.
RMC Estelle Midi.
13h04 sur RMC et on va poursuivre Estelle Midi avec l'interdiction du jour. Et c'est celle du maire d'Elne, près de Perpignan, qui a décidé d'interdire la construction de nouvelles piscines sur sa commune jusqu'au 30 avril prochain. La raison, Rémi, le manque d'eau dans le département.
Ouais, la décision fait suite à l'arrêté préfectoral du 24 février dernier qui a placé les Pyrénées-Orientales en alerte sécheresse renforcée. Le déficit en eau dans le département a atteint un niveau historique. Le phénomène a démarré en juin 2022. Il est toujours en cours et il est le plus long et le plus intense depuis le démarrage des suivis de l'humidité des sols par Météo France en 1959. Pour le maire d'Elne, pas de doute, en prélevant de l'eau pour des usages qui ne sont pas humains, notamment pour les piscines, on affaiblit les nappes et on peut se retrouver dans une situation où toute la population manquerait d'eau et d'eau potable. L'interdiction de construction de nouvelles piscines, une décision encore jamais prise dans les Pyrénées-Orientales et applicable, tu l'as dit, jusqu'au 30 avril prochain. Mais attention, ça c'est une date qui n'est fixée que de manière temporaire. Elle pourrait être prolongée en fonction de l'évolution de la pluviométrie. Les infractions à ce règlement sont passibles d'une contravention de 450 euros, sans compter les frais de remise en l'état, en clair de destruction de ce qui aurait été entamé. En août 2022, interrogé sur la question de l'interdiction des piscines en France, des nouvelles constructions, le député écologiste Julien Bayou avait provoqué une vive polémique en indiquant ne pas écarter cette idée pour l'étendre, donc cette mesure d'interdiction de construction de nouvelles piscines à l'échelle nationale.
Alors on sait que la pluviométrie ne devrait pas s'améliorer de toute façon en France. Alors faut-il arrêter tout simplement de construire des piscines, Anne-Sophie Saint-Père?
Effectivement, vu la situation de sécheresse, ça paraît pas illogique ou choquant de se dire qu'on va pas remplir des piscines alors que de l'autre côté, on restreint l'arrosage dans l'agriculture. Et je pense d'ailleurs que en fait, les Français sont plutôt raisonnables par rapport à ça quand il y a des problèmes de pénurie. Oui, alors ceux qui en ont déjà, de toute façon, ça va pas s'appliquer à eux. Mais je pense quand même qu'il y a une compréhension, et notamment parce qu'on a vu des situations un peu extrêmes où des endroits devaient être ravitaillés par des camions-citernes. Donc il peut y avoir une certaine discipline sur le fait de se restreindre sur l'eau. Après, là où je serais prudente, c'est que face à la limitation des ressources, il faut absolument prendre des mesures qui sont justes. Et donc il faut commencer...
La piscine
privée. Alors bon, moi je trouve pas ça forcément utile vu qu'il y a des équipements collectifs, mais c'est quelque chose qui est un peu démocratisé en France et l'idée c'est quand même de d'abord s'attaquer aux personnes qui consomment le plus de ressources. Donc si on interdit d'un côté les piscines privées mais qu'on continue à arroser les terrains de golf ou qu'on ne s'attaque pas à ceux qui contribuent le plus massivement au changement climatique, il va y avoir un sentiment d'injustice. Donc ça peut pas être une mesure prise individuellement, il faut que face à la limitation des ressources, face au changement climatique, on regarde quelles sont les consommations et qu'on ne s'attaque pas d'abord aux plus petits.
Perico-Légas, vous, ça vous semblerait logique d'interdire en fait, l'interdiction, la création de nouvelles piscines, parce que on sait que ça prend effectivement beaucoup d'eau, on sait que c'est un problème. Donc,
il y a une réalité française. Nous sommes le pays où il y a le plus de piscines individuelles.
Oui.
C'est le deuxième pays au monde après les États-Unis.
Deuxième pays au monde, ce qui est quand même en soi un problème écologique dans la mesure où il y a une réalité de l'eau. Je vais vous dire, il y a une injustice géographique. Il y a des territoires où ça posera moins de problèmes. Il y a peut-être une solution technique. Vous pouvez faire votre piscine, mais vous prenez pas l'eau dans la terre. Vous la prenez dans le ciel. C'est-à-dire, vous trouvez un système de captage des eaux de pluie.
Non, mais... enfin, s'il pleut pas.
Ah ben voilà. Donc là, moi, je suis pas contre la piscine. Pour tout le monde, puisqu'en plus, on va vers des périodes de sécheresse et de chaleur, et on sait que c'est un élément de rafraîchissement. Voilà. Maintenant, si c'est au détriment de l'environnement, et surtout de la réserve de l'eau, qui est vitale pour l'avenir, pas seulement de la France, de l'humanité en général.
C'est pas les piscines qui vont t'enlever ta réserve vitale.
Alors, c'est pas une piscine. Mais c'est 10 millions, 20 millions, 30 millions de piscines dans certains territoires.
Il y a 3 millions de piscines en France.
Non, mais
il y a 3 millions de
piscines. Ça continue à se développer.
Oui, oui. Il fait de plus en plus chaud.
Non, mais c'est vrai. Non, mais ce que dit Perico, c'est vrai. Je donne juste des chiffres. Il y a près de 3 millions de piscines privées aujourd'hui en France. Ce chiffre, il a augmenté de 50% ces 10 dernières années. Et on est le deuxième pays au monde où il y a le plus de piscines.
Et ça
derrière les États-Unis, encore une fois.
Or, on sait, par contre, une fois qu'elle est remplie, on a juste à faire le niveau. Ouais. Voilà. Si on peut la remplir avec de l'eau, qui est des grandes citernes d'eau de pluie qui serviraient aux piscines dans les endroits où il pleut, et tant pis pour les endroits. Alors, c'est horrible ce que
ça
je dis.
Ça va être sympa pour les gens de mettre une citerne dans leur jardin.
Avec des eaux usées. Tu mets des eaux usées, les chiottes et tout.
Alors, l'eau grise. Ne buvez pas l'eau Mais on se baignerait avec un scaphandre, ne buvez pas l'eau de la piscine.
Personne fait ça.
Je réplique. Non, mais l'eau de pluie est une solution. Maintenant.
C'est une solution.
Non, mais philosophiquement, j'ai rien.
Il pleut plus.
Daniel, philosophiquement, j'ai rien contre la piscine. Mais si c'est pour qu'on me dise que la nappe phréatique, qui est déjà fatiguée, va être encore plus pompée, tout ça pour que Nini chez mes mères fasse trompette avec les fesses.
D'accord, mais enfin, dans ces cas-là, on lave plus sa voiture, par exemple.
Et c'est quoi comment ils font les pays du Sud, la Grèce, l'Espagne,
on va dans le fleuve.
Depuis des années, avec des problèmes
de l'eau, confrontés,
en fait. Mais ils vont être confrontés au même problème.
Ou alors.
Le débat ne porte pas sur la piscine privée.
Il y aura une solution.
Moi, depuis des jours, j'entends parler de problèmes de l'eau. Donc, je me demande dans les vrais pays chaud, comment ils ont fait
Daniel,
pendant toutes ces années
pour...
Ils recyclent mieux l'eau que nous, par exemple.
D'accord. Et l'eau de mer. Tu veux dire qu'on peut réfléchir au lieu de balancer des conneries comme ça?
Bien sûr. Et l'eau de mer.
Rémi, il a oublié un détail. C'est quoi la couleur politique du maire qui a avancé cette idée, Rémi?
Je vais vérifier, mais je crois qu'il est sans étiquette.
Il doit être d'une mouvance écologiste ou de gauche.
Il est communiste.
Si on a un traitement d'eau de mer, tout est résolu. Ça va coûter très cher.
Moi, j'essaie juste de comprendre parce que c'est tous les jours, c'est il faut que, on va obliger que, on va interdire que, et ça vient toujours en fait des communistes.
Mais c'est dommage qu'il dise ça.
Pourquoi la droite n'a pas le droit de dire
moi
ça?
Moi qui suis attaché et qui pense que dans la devise de notre République, le mot le plus important c'est liberté, j'ai toujours un petit peu de mal. Donc,
l'égalité, tu fais quoi?
Liberté, fraternité sont prioritaires selon moi, mais c'est mon point de vue.
Avant l'égalité.
Liberté,
donc,
fraternité.
Donc il y a des gens qui n'auront pas d'eau et donc on aura parce que tu auras la piscine.
Exactement, mais on a le droit. Tu sais, il y a eu énormément de débats philosophiques sur notre devise nationale et sur les mots qui devaient prévaloir dans cette devise. Mais on n'en est pas là.
Donc,
l'avion, terminé. Les piscines, c'est totalement accessoire. Le golf, on l'arrose plus. La terre battue du tennis au club, bah, il y a plus besoin de mettre de l'eau dessus, donc c'est terminé. La voiture, il faut plus la prendre. Ok,
la faute à qui, mon cher Daniel?
Va jusqu'au bout de ta phrase.
La faute à qui?
Le monde que nous vendent ces gens-là. Écoute, on est encore en droit, j'espère, tant que je peux avoir un putain de vote, tant que je peux aller voter, je peux encore refuser le monde que me propose.
Un monde sans piscine, ça va.
Ça c'est une étape. Mais tu comprends pas que tous les jours, tu peux plus faire ça.
Mais il y a la sécheresse.
Donc
la
faute à qui, Daniel? Le monde des pastèques, tant que je pourrais le refuser. Donc les pastèques, c'est les verts rouges. Hein.
Daniel.
Le rouge, vert.
Daniel, tu politises quelque chose.
Daniel, ce monde-là, tant que je pourrais le refuser par un bulletin de vote, je le refuserais.
Est-ce qu'on aurait pu l'éviter, Daniel? La faute à qui? Est-ce que c'est pas le capitalisme libéral financier qui a fait une industrie qui a pompé les ressources de la planète?
Sur l'exemple des centrales nucléaires, c'est les socialistes.
Daniel, il me semble
Est-ce que est-ce que le système économique de consommation?
On va envoyer la balle, on va tous se renvoyer la balle.
Va jusqu'au bout de ton raisonnement. Et le courage d'aller jusqu'au bout de ton raisonnement.
Laissez parler Anne-Sophie.
Daniel, t'as l'air d'avoir une petite obsession sur la question de la gauche. Enfin, là, tu politises quelque chose qui vient de rapports de scientifiques du GIEC. Il y a un problème de
réglementation. Il n'est pas politisé, n'est-ce pas?
Il n'a pas de
problème
non plus.
C'est pas politisé. C'est vrai, c'est pas politisé, ça.
sont des scientifiques. Ce sont des scientifiques. Toutes les données montrent qu'il y a un réchauffement climatique. Mais enfin, dans ces cas, alors toi, en fait, tu ne crois pas du tout qu'il y a un dérèglement climatique.
Si, bien sûr.
Tu penses pas qu'il y a un manque d'eau. Tu penses pas qu'il y a des canicules. Tu penses pas que du coup, ça provoque davantage d'incendies. Et tu considères qu'il faut continuer dans ce sens-là parce qu'on ne peut rien t'interdire.
Je pense que si l'interdiction vient des communistes, je vais m'en méfier.
Il y en a plus, ils sont plus très nombreux, mon petit Daniel. T'as trouvé un maire communiste que t'as. Je vais trouver des maires de droite qui seront d'accord. Les maires de droite, appelés.
Une commune qui est touchée par la sécheresse. Encore une fois, il serait à Roubaix.
Mais là, je demande. Non, mais tu sais, des communes touchées par la sécheresse, j'en connais plein dans le sud de l'Italie. Je ne sais pas s'il y a des maires comme ça qui prennent ce genre.
Alors nous lançons un appel.
Parce qu'on a essayé de réfléchir autrement.
Nous lançons un appel aux maires de droite. Est-ce qu'ils peuvent appeler Estelle tout de suite pour confirmer qu'ils sont d'accord quelquefois avec ce genre de mesures.
Bon, nous sommes avec Mathieu. Mathieu qui nous appelle de Pia, justement dans les Pyrénées-Orientales. C'est la même région que Elne et qui est fabricant de piscines. Bonjour Mathieu.
Oui, bonjour.
Bon, évidemment, ça ne doit pas vous réjouir, hein, bien sûr, cette mesure.
Non, ça ne nous réjouit pas, c'est sûr. Votre débat part dans tous les sens sur pas mal de choses, juste pour des piscines. Moi, je m'arrêterai à mon métier, hein, qui est le mien, hein, de fabricant de piscines. Pour parler un peu comme...
Changer de métier, monsieur.
Non, j'ai pas du tout envie de parce que je m'éclate, j'ai surtout pas envie de changer de métier.
Mais
c'est sûr qu'on le met en danger avec ce genre de décision. Alors pour rebondir sur ce qu'a dit Daniel, parce que je suis quand même assez d'accord avec pas mal de choses qu'il a dit, même si je suis pas totalement d'accord avec tout, hein, c'est clair.
Oui, là, il va dans votre sens, donc.
Voilà, donc c'est bien un maire communiste qui a voulu faire du buzz. Parce que si on va dans son sens, faut savoir que les communistes ont tendance à toujours et en ce moment c'est la mode.
Oui, mais on va arrêter. Non, mais Mathieu, alors, on va pas se focaliser sur la couleur politique du maire. Vous êtes fabricant de piscine dans les Pyrénées.
Dites-nous pourquoi il faut continuer à en construire. C'est ça qui nous intéresse.
Juste finir sur ça. Moi, je fais 2500 piscines par an, d'accord, sur le marché français.
Ah, c'est beaucoup.
Sur ces 2500 piscines, je ne m'adresse pas à des gens. 85% des piscines que je vends sont à des salariés et des employés.
D'accord.
Donc le
pas des riches, quoi.
Voilà, c'est ce que je voulais dire. D'accord, en France, c'est tout ce que je voulais dire. Donc pour moi, c'était du buzz. S'il a bien réussi, puisqu'il passe un peu partout en France, c'est tant mieux pour lui. Voilà, on va passer à autre chose.
Il pleut beaucoup en ce moment dans les Pyrénées-Orientales.
Non, mais le problème de l'eau, on le connaît depuis très longtemps. Mais moi, je vais vous expliquer.
Non, là, c'est historique. Ça n'a jamais été comme ça.
Justement, il va s'expliquer.
Moi, je veux bien partir dans tous les sens, mais
c'est pas tous les sens. C'est Météo France. Enfin, c'est des relevés depuis 1959. Donc on peut partir dans tous les sens si vous le voulez, mais c'est une réalité.
Avant de parler de tout ça, je pense que la sécheresse en France, on en parle déjà depuis quand même pas mal d'années. Aujourd'hui, c'est une préoccupation première.
Oui, on a raison.
Il n'y a pas de souci. Mais faut savoir qu'en France, quand même, la consommation d'eau. Faut savoir que tout ce qui s'en va par des fuites des réseaux de la commune, c'est 20% de la consommation annuelle française.
Ça, vous avez raison, Mathieu.
Elle perd dans le sol. C'est dommage. Ça nous fait perdre de l'argent parce que c'est de l'eau qui a été traitée. Donc ça, c'est un vrai scandale. Mais en revanche, l'eau, elle s'évapore pas. Hein. Elle va dans le sol.
Oui, mais elle est complètement perdue.
Non, elle va dans le sol.
Elle
rejoint les nappes phréatiques. Mais si.
Pour la boire, alors.
Elle est quand même complètement perdue. Mais moi, ce que je voudrais juste te dire...
Elle est commercialement perdue, mais pas écologiquement.
Oui.
Écologiquement, c'est des sources, on en perd quand même, ça reste...
Oui. Enfin, elle repart à la source, on est d'accord. Vous voyez ce que je veux dire.
Elle ne repart pas directement dans les nappes phréatiques qui sont tellement basses qu'avant...
Moi, ce que je veux, c'est qu'avec Hello, vous me remplissez ma piscine.
Voilà.
Je voudrais juste finir que sur ces 20% d'eau qui sont perdues, c'est quand même une étude qui est faite par la SP2E, c'est la Fédération.
Ah non, mais c'est vrai, le chiffre est vrai. Est-ce que vous pouvez réutiliser cette eau, monsieur, pour mettre dans la piscine? C'est ça la question.
Que depuis 2012, il n'y a pas eu d'amélioration, on est toujours à 20% des pertes d'eau.
D'accord, mais Mathieu, juste, attends, Mathieu, répondez à la question. Non, mais Mathieu. D'accord, mais Mathieu, répondez à la question de Perico Légas. Vas-y, Perico.
Est-ce que vous avez une solution, justement? Est-ce qu'on peut récupérer ce gaspillage d'eau? Celui-là et d'autres, il y a beaucoup de gaspillage d'eau.
C'est là où je voulais en venir.
Alors, allez-y.
Le maire, il a fait ça, mais il ne s'est pas renseigné. On a une fédération de la piscine, il aurait pu s'en renseigner.
Justement, on sera avec le président de cette fédération dans un instant.
Voilà. Donc, il existe des systèmes pour gaspiller beaucoup moins d'eau. On a mis des choses en place, il y a des choses qui existent.
Bon.
La récupération des eaux de pluie, ça existe. Aujourd'hui, un permis de construire, il n'y a aucune mairie il n'y a pas beaucoup de mairies qui oblige à récupérer les eaux de pluie. Alors que c'est possible. Il y en a qui le font. Pourquoi eux, ils ne le font pas?
Bonne résolution.
Donc ce que vous dites, en fait, il faut obliger à récupérer les eaux de pluie plutôt que d'arrêter les piscines.
récupérer les eaux de pluie et de les lancer dans les toilettes, à savoir que les toilettes, ça représente 18 mètres cubes par foyer, par an.
Oui, enfin, excusez-moi, mais c'est plus nécessaire d'aller aux toilettes que d'aller dans une piscine.
Oui, mais cette eau, oui, mais du coup, l'eau économisée, on peut l'utiliser.
Non,
mais
oui, je comprends ce que dit monsieur. Bien sûr, on peut faire des choses, mais.
Non, mais il y a des solutions.
À ce niveau de sécheresse, je pense que si on récupère de l'eau, la priorité ne sera toujours pas les piscines privées. C'est ça le problème.
On est avec Gilles Mouchirou. Il est président de la Fédération des professionnels de la piscine. Bonjour, Gilles.
Bonjour Estelle.
Et merci d'être
ici. Président, pas président, mais vice-président.
Bon, bah écoutez, j'ai voulu
changer de métier, monsieur.
J'ai voulu vous offrir une promotion. Mais vous le serez bientôt. Gilles, justement, sur cette histoire de piscine, vous construisez combien? Il y a combien de piscines qui se construisent chaque année en France?
Bon, entre 60 000 et 70 000 selon les années, avec une forte progression, certes, sur l'exercice 2020-2021. Pour autant, j'ai entendu ce débat passionné, mais il me semble qu'on se trompe de débat. Et je pense qu'il est important qu'on revienne sur des chiffres très, très, très précis que nous avons mesurés. Le volume total de piscines en France, de piscines familiales, ce n'est que 0,15% de l'utilisation totale de l'eau en France. Donc 0,15%. Comme le disait Mathieu, bon, 20% d'eau traitée retourne directement dans le sol. Mais il y a également quelque chose qui est important, c'est que les professionnels de la piscine représentent quand même un grand nombre d'emplois, 60 000 emplois directs et indirects. C'est 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est 3640 entreprises. Ce sont des impôts, des taxes, de la TVA qui est payée. Sur ce que l'on indique, sur ce qu'indique monsieur le maire de cette commune, ce qui nous étonne, moi, ce qui m'étonne fortement, c'est que ce maire, il s'oppose à son propre PLU, que le PLU, qui est le seul document qui définit, le plan local d'urbanisme, qui définit s'il y a le droit ou non de construire une piscine. Donc, il va contre son propre PLU, ce qui est quand même relativement interrogatoire.
C'est jusqu'à fin avril, en fait. Lui, il dit, là, aujourd'hui,
tant que j'ai pas d'eau,
la sécheresse fait que je veux pas qu'on construise de nouvelles piscines aussi parce que ça va être compliqué après pour le remplissage.
Mais c'est un faux débat parce qu'en fait, la piscine, on la remplit une fois et ensuite on la recycle. Ce n'est pas de l'eau qui est perdue comme l'eau des cabinets de toilette, de la vaisselle ou de la douche. Et puis, dans une famille qui va consommer entre 200 et 300 mètres cubes d'eau par an, une famille de 4 ou 5 personnes, si on réduit le temps de la douche, eh bien, on va vite récupérer ces quelques 25 mètres cubes d'une seule petite piscine.
Excusez-moi, Gilles, je vois pas pourquoi je réduirais le temps de ma douche pour quelqu'un qui a une piscine. Enfin, pardon.
Pourquoi tu priverais quelqu'un d'avoir une piscine parce que toi, ça te branche de faire un quart d'heure
c'est important que je prenne une douche longue.
Pourquoi c'est pas important qu'il aille se baigner. Tu peux très bien te doucher en 3 minutes. Pourquoi tu empêcherais un mec d'avoir une piscine si toi, t'as envie de rester 20 minutes sous la douche? Il peut très bien te répliquer.
Mais parce que je dépense beaucoup moins d'eau que lui. Sur un été, t'imagines, vous l'utilisez, une piscine, ça s'utilise combien de temps?
Sur un an de douche où tu restes un quart d'heure au lieu de 5 minutes, à mon avis, t'en remplis des trucs.
D'abord, je reste 3 minutes.
Je partage complètement l'avis de Daniel. En plus, une piscine, ça ne se vide pas. L'eau est recyclée.
Exactement. Elle se nettoie.
On a des couvertures sur les piscines qui évitent l'évaporation. On a des hivernages actifs. On a des procédés adaptés. Sincèrement.
Bah c'est super quand elle retourne dans la terre avec tout le chlore et tout ça. Oui, mais on se trompe de débat. À un moment, il faut bien que tout le monde mette sa patte, Gilles Mouchirou.
Estelle, quand on.
Mais j'adore me baigner dans les piscines, c'est pas le problème.
Juste une chose, on ne renvoie pas de l'eau chlorée dans la terre, c'est faux. L'eau, quand elle retourne dans la terre, elle n'est plus chlorée puisque le chlore est consommé par l'eau de la piscine. Donc on ne renvoie pas de l'eau chlorée. Et l'eau, elle est filtrée, elle est recyclée et elle n'est que très peu consommée. Voilà.
Donc ça vous agace en fait ce débat, Gilles?
Oui, tout à fait, parce que ça nous agace. Non, nous sommes très attentifs et depuis des années à la Fédération des professionnels de la piscine, nous continuellement on travaille à l'optimisation de nos produits, de nos techniques. En 25 ans, on a diminué de 45% le volume d'eau des piscines. C'est une diminution drastique. Et je partage l'avis de Mathieu de dire que nos clients ne sont pas
évidemment ils fabriquent des piscines.
Ce sont monsieur et madame tout le monde qui peuvent installer des piscines et qui peuvent apprendre à leurs enfants à nager, améliorer leur santé et puis surtout
on n'a rien contre la piscine.
J'imagine que les gens ne construisent pas de piscine olympique, hein, c'est-à-dire que dans la piscine familiale déjà c'est assez rare. C'est ça. Et alors après ce qu'il faut rappeler c'est que effectivement avant on voyait souvent des piscines qui étaient profondes de 2 mètres et aujourd'hui c'est plutôt 1m30 et ça réduit effectivement
c'est un symbole social la piscine et c'est vrai qu'on est dans une période et dans un pays.
On revient à quelque chose de politique.
Non,
on va rappeler que le maire communiste
moyenne, on te dit.
Oui, d'accord. Bon, il fait d'idéologie. Point.
Merci.
Il est un peu dans son domaine, enfin, totalement. Oui. Totalement.
Mais
un maire de droite confronté à cette situation aurait pu dire attention, je suspends les permis de piscine pendant quelques temps.
Parce que ça paraît pas. Je suis désolé.
Qu'est-ce que vous pensez du maire de ces 9 maires du Var, notamment le maire de Callian, qui viennent d'interdire toute nouvelle construction d'habitation sur le territoire de leur commune pour les mêmes raisons sécheresse. Oui, le maire de Callian, j'ai regardé, il fait partie du parti d'Edouard Philippe.
C'est un problème national.
Il n'est pas communiste, c'est un problème national.
Ce que je veux savoir, c'est. Parce que moi, j'aimerais bien avoir. J'ai des enfants.
À Daniel. Mais là, il s'agit d'autre chose.
J'ai des enfants, j'aimerais bien avoir une piscine. Je sais qu'on va vers des périodes chaudes. J'aurais évidemment un scrupule politique et social terrible si je devais faire une piscine dans un... Moi, je suis à Val-de-Loire. Je ne sais pas combien. Mais déjà, en Val-de-Loire, on a des restrictions d'eau l'été pour l'arrosage du jardin et la voiture. Voilà. J'aurais un problème de conscience énorme si je m'en fous, je fais quand même ma piscine. Voilà. Donc moi, ce que je veux, c'est que ça s'arrange. Est-ce qu'on peut trouver des moyens technologiques? Est-ce que les eaux de pluie, je me bats depuis longtemps. Mais même sans la piscine, il faut récupérer les eaux de pluie. Voilà, ça c'est fondamental, ça va créer des emplois, ça va créer des techniques. Oui. Toutes les maisons de France avec un toit, la gouttière, on voit cette eau, ces milliards de mètres cubes d'eau qui partent tous les ans. Si on peut les récupérer, repensons différemment la gestion de notre planète pour avoir des piscines, parce qu'une piscine, c'est quand même quelque chose de merveilleux.
Et t'as les piscines naturelles aussi aujourd'hui.
Avec un petit drink le soir au coucher du soleil.
Mais oui.
Et puis ma maman qui est là, qui est contente, et le doigt de pied écarté, c'est quand même un instant de sociologie formidable.
Vous avez plein de messages sur l'appli RMC, Rémi.
Oui, message par exemple de Guylaine qui nous dit « J'habite en Ardèche ». Et l'été, c'est très dur. J'ai une piscine tubulaire remplie avec de l'eau du Rhône, changée juste au début de la saison. Elle nous dit que c'est précise, hein, 4 mètres cubes et demi. Avec cette piscine, je limite l'usage de la clim. Je ne prends pas mon véhicule diesel pour faire 10 km aller à la piscine la plus proche.
Daniel est rassuré.
Quand on sort des obligations et de l'idéologie, on peut être malin et avoir envie de
réfléchir. Azeux qui nous dit dans le même concept, interdisons les bains au profit des douches.
Exactement. Non mais c'est aussi con que ça puisse paraître. Ah oui. C'est néanmoins plein de bon sens.
Oui, comme le bon sens, c'est devenu.
Comme le bon sens, c'est désormais devenu fasciste.
Non mais il y a moins. Arrêtez, mais il y a
Non, j'arrête pas. C'est une réalité.
Il y a de moins en moins de baignoires. Les gens, ils arrêtent leurs baignoires au profit des douches.
Interdisons les baignoires.
Non mais alors il y a peut-être un truc qui va.
Il y a des gens qui prennent des bains tous les jours. Il y en a moins maintenant, mais il y en a.
Okay.
Mais une amende. Qu'on aille à la maison, tu vas, vas-y, envoie l'amende.
La baignoire dans la piscine.
Est-ce qu'il faudrait, Anne-Sophie Saint-Père, mais là ça va être tout le monde d'accord, à la limite, au moins d'instaurer une taxe sur le remplissage des piscines.
Voilà.
Voilà, une taxe. Voilà, tu veux.
Voilà, la solution à tout, c'est la taxe.
Il y aura que les riches alors. Il y aura que les riches qui vont avoir des piscines.
Mais
si t'as une taxe, ça veut dire que t'es pas en train de parler d'un problème naturel quoi. Si c'est juste pour récupérer de l'oseille.
Non, c'est pour limiter la surconsommation.
Exactement. Si à chaque fois que tu payes de l'eau, ça coûte très cher, tu vas faire.
Mais je vais rejoindre le fait que dans ces cas-là, ça veut dire ça veut dire qu'on autorise les riches à surconsommer et passe au moins d'argent. C'est un problème. Ensuite, là, je pense qu'on en parle alors qu'on n'est pas au cœur de la canicule, la sécheresse, qu'on n'a pas encore de camions-citernes qui viennent ravitailler des endroits où il n'y a pas d'eau. Du coup, ça peut paraître choquant, mais il faut quand même se préparer à ce qu'il y ait des sécheresses très dures. Et dans ces cas-là, oui, il est possible que des piscines privées s'apparaissent un peu abusives.
Je crains que nous ayons un jour, en France, des rationnements d'eau, en tout cas saisonniers, sur certains territoires. C'est déjà le cas. Il y a déjà eu cet été des communes, on a coupé l'eau pendant quelques heures. Vous vous rendez compte, en 2022.
En France.
Voilà, existé en Sicile pendant très longtemps.
Voilà. Et comme le capitalisme néolibéral ne va pas freiner sa consommation planétaire, je pense que nous serons confrontés à des situations d'eau. Ça, c'est une vraie tragédie pour l'humanité. Oui. Hein.
Voilà. Et pour les agriculteurs.
Et on regardera ce débat avec un certain jugement quand on en sera là.
Nous avons tous raison.
Des gens traumatisés outre mesure dans les régions où on a coupé l'eau pendant quelques heures dans les journées. Bon. Si un jour il faut en arriver
à ça. Les régions qui étaient déjà sèches, ça va être encore pire après.
Je vais te couper l'eau chez toi de 3 heures, on va voir ta gueule demain matin quand tu pourras
pas. Bon, taisez-vous, je voudrais pouvoir faire mon sondage. Bon, on vous a posé la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Faut-il interdire de construire des piscines?
C'est une mauvaise idée pour la majorité de ceux qui sont prononcés sur les réseaux sociaux, mais alors c'est pas une majorité franche, hein, 53%.
Quand même. Bah, c'est la marge d'erreur. Hein.
Mais je m'attendais à une majorité.
C'est kiff-kiff.
Pas déçu en bien.
Allez, dans un instant, le zapping, le meilleur d'RMC, on parlera bien sûr de la défaite du Paris Saint-Germain hier, 2-0 face au Bayern. Daniel Riolo ne s'est pas calmé hier soir.
J'ai plus rien à dire sur le sujet, Estelle se laisse tout faire.
Non, je crois pas. Faut-il interdire le film Creed 3 dans les cinémas? Vous savez, c'est un film avec.
Et en fait, il faut obliger, il faut interdire. Il faut interdire.
C'était le débat des GG ce matin. Il y a eu plein de bagarres pendant le visionnage de ce film.
Ils se battent dans les salles.
Et ils se battent dans les salles.
L'évolution de notre société me fait très peur.
Et puis, doit-on durcir l'accès aux prestations sociales. Le ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal, n'est pas contre. Il travaille dessus, justement. On en parle dans un instant sur RMC. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
13h32, vous êtes sur RMC, RMC Story, vous êtes dans Estelle Midi et c'est l'heure du meilleur d'RMC, le zapping, c'est parti.
RMC, Estelle Midi,
le zapping RMC.
Et on va commenter tous ces meilleurs moments sur RMC avec Rémi Barré, Perry Collégas, Anne-Sophie Saint-Père et Daniel Riolo. On va commencer avec un extrait de Charles Matin, ce matin sur RMC. Faut-il durcir l'accès aux prestations sociales ? Hier, le ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal, a déclaré travailler sur une réforme des allocations sociales afin de lutter contre la fraude. Le projet est de faire passer de 6 à 9 mois la durée de résidence sur le territoire pour toucher les allocations. Une chasse aux plus précaires, dénoncé ce matin sur RMC, le porte-parole de l'association Attaque, Vincent Drezet.
Ce qui est toujours assez étonnant dans la période, c'est cette espèce de chasse aux pauvres, de chasse à la précarité. On durcit les conditions d'allocation au chômage. On a une réforme des retraites. On est en plein conflit de retraite en ce moment. On s'apprête à durcir le versement à prestations. Et d'ailleurs, je remarque que c'est quand même à l'opposé de ce que disait Emmanuel Macron pendant la campagne de 2022. Il disait il faut faire la solidarité à la ressource. C'est-à-dire faire en sorte que tous ceux qui ont droit aux allocations en bénéficient. Parce qu'aujourd'hui, vous avez plus du tiers de ceux qui pourraient prétendre à des allocations sociales, qui, pour tout un tas de raisons, parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils sont découragés, n'en bénéficient pas. Donc il y a une économie sur le dos des précaires et on s'attaque aux précaires.
Est-ce qu'il faut durcir l'accès aux prestations sociales et est-ce qu'on s'attaque aux précaires en faisant ça, Perry Collégas ?
Le président de la République a eu un jour le cri du cœur, qui a fait le tour de tous les médias, le pognon dingue. Et il s'est rendu compte qu'il y avait effectivement une masse d'argent. La protection sociale en France, c'est sacré, ce sont nos valeurs, c'est l'histoire de... Il n'est pas question d'en mettre en cause. Est-ce que tout est toujours bien dépensé au bon moment, au bon endroit, avec les personnes qui y ont droit ? Voilà, on parlait de l'eau tout à l'heure, voilà, il n'y a plus d'eau. Là, on a un problème de financement, justement, de ces prestations sociales, et nous voulons être sûrs que ça va bien à des gens qui y ont droit et qui en ont besoin. Or, on sait qu'il y a... de la mauvaise gestion, qu'il y a de la fraude, qu'il y a de l'abus.
Mais t'as de la fraude fiscale aussi qui représente bien plus.
Mais il faut regarder tout ça. Ce sont des milliards d'euros. C'est pas des centaines de millions. Ce sont des milliards d'euros qui tous les ans partent soit dans le caniveau avec l'eau, soit voilà. Donc il faut et qu'un ministre se pose cette question. Ce n'est que justice pour les petits parce que il vient de le dire. Il y a des gens qui n'osent pas le demander non plus. Voilà. Il faut presque forcer les gens qu'on en a besoin à le recevoir parce que ça crée et s'assurer que tous les gens. Je veux dire, on les connaît les fraudes. Hein, on va pas tomber dans des caricatures. On sait que c'est facile et en France c'est très 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 facile. Donc oui, ça ferait une mesure de cohésion. L'argent social, oui, à ceux qui en ont, qui le méritent et qui en ont besoin.
Daniel Riolo, c'est du bon sens pour vous le fait de verser les prestations sociales uniquement aux personnes qui résideraient en France 9 mois dans l'année et plus 6 ?
Oui, sur ce point, mais Perico, comment dire ? Il faut pas opposer en fait quand tu parles de réorganiser l'argent. Oui, en fait, le vrai problème de la France, c'est ça aujourd'hui. Donc tu dis on va récupérer de l'argent qui visiblement est usurpé par des gens qui n'en auraient pas complètement le droit ou qui ne le méritent pas à un moment donné. Mais si tu dis ça, tu vas opposer des gens avec d'autres gens et de la même façon on va te répondre mais l'État gaspille une tonne d'argent mal utilisé que ce soit dans les ministères toutes ces dépenses somptuaires
mais faut tout verrouiller
on pourrait revenir. Là, je suis d'accord. En fait, il faut qu'il y ait un équilibre là-dessus, parce que évidemment que la machine étatique dépense également beaucoup d'argent qu'on pourrait devoir.
Mais là, ce sont des sommes faramineuses, Daniel. C'est des sommes sur le social faramineuses.
Mais là, je suis d'accord. Mais je pense. Organiser la dépense publique et comment on collecte l'argent et comment on le dépense, je pense que la vraie révolution, la vraie réforme de l'État, c'est celle-là. En fait.
Vous êtes d'accord avec ça, Anne-Sophie Saint-Père ?
Moi, je serais assez curieuse de voir une étude d'impact sur cette mesure, parce qu'en fait, il y a déjà des conditions de séjour. Je ne pense pas que ça va encourager les personnes qui ne demandent pas les prestations sociales à le faire. C'est une autre politique qu'il faudrait mener pour ça, pour faciliter l'accès à ces prestations sociales. Et par ailleurs, ça me fait un peu penser à ce que disait l'abbé Pierre, la politique, c'est où on prend l'argent et où on le met. Là, la question, c'est où on le prend et on va chercher les prestations sociales. On va effectivement pas chercher la fraude fiscale.
On va la chercher aussi, la fraude fiscale.
Oui, mais la fraude fiscale,
on la cherche.
On la recherche au niveau des paiements. Et on est sur 80 milliards d'euros de fraude fiscale par an, contre 1 à 5 milliards éventuellement sur la fraude sociale, sachant que tous les effectifs de la Direction Générale des Finances Publiques, donc ceux qui pourraient lutter contre la fraude fiscale, ont été été diminuée, qu'il n'y a pas non plus de politique volontariste sur les paradis fiscaux, sur l'évasion fiscale des multinationales, parce que c'est essentiellement là qu'il y a des gros volumes. Donc voilà, on s'en prend au précaire.
Qui dit qu'on ne fait rien là-dessus ?
Je cite, on s'en prend au précaire, et probablement pour des montants qui seront minimum, parce que globalement, il y a déjà des conditions de séjour, donc ça ne va pas toucher forcément énormément de monde.
C'est un micro-truc, ça c'est sûr.
C'est un micro-truc, voilà. c'est un effet d'annonce.
Exactement dans ce que je disais, on oppose les gens, alors qu'effectivement...
Et c'est un effet d'annonce qui montre qu'aujourd'hui, le gouvernement gouverne avec la droite, parce que c'est un effet d'annonce.
Je vais citer un exemple très bref. Une directrice de caisse primaire d'assurance maladie de Paris me citait l'exemple, il y a 3 ans, d'un étranger qui est arrivé d'un pays asiatique, très court séjour, il s'est fait refaire les dents totalement aux frais de là. Elle a émis un avis négatif, elle a refusé, c'est monté dans la hiérarchie, des associations sont intervenues et le ministère a dit non, on rembourse. Voilà. Elle était furieuse, elle a dit j'ai des dossiers qui attendent ici, plus urgents, de gens qui sont là, et là elle a dit vraiment, elle dit je ne suis pas du tout contre.
Mais c'est une goutte d'eau.
Oui, elle me dit mais l'exemple.
Non, mais c'est une goutte d'eau.
Et j'ai reçu une consigne de ma hiérarchie.
Pas normal, d'accord.
Je ne comprends pas qu'à chaque fois on oppose ça.
Elle avait émis un avis négatif très construit. Elle avait dit une personne qui est venue que pour ça, vraiment que pour ça.
Mais là en l'occurrence, il ne s'agit pas du tout de ça.
Arrêtons de dire en cherchant à défendre le gars qui fait ce que vient de dire Perico.
Personne ne le défend.
Non. Si, les associations de gauche défendent.
Bien sûr.
Alors qu'en fait, il faut tout condamner.
Elle dit c'est ce qui s'est passé. Et elle est de gauche elle-même. Elle a dit là, je pouvais pas accepter. Je dis non. Et ma hiérarchie me dit si, on prend quand même parce qu'il y a eu des interventions. Elle dit là, je suis pas d'accord. C'est contre mes valeurs de gauche.
Elle est GG ce matin. Faut-il interdire le film Creed 3 dans les cinémas? Sorti il y a une semaine en salle, ce film provoque dans de nombreuses salles de France des incidents. Bagarres, jets de projectiles. Les services de sécurité sont obligés d'intervenir et d'arrêter les projections. Un film trop dangereux pour nos jeunes, selon l'ex-policier du Raid, Bruno Pomard.
Il faut interdire ces films, point final. On sait la violence qu'on rencontre tous les jours. Kevin, il le sait, il est prof. Moi, je le vois avec les groupes, les milliers de gosses que je reçois, qui sont pas des jeunes, qui se battent évidemment sur mes séjours, etc. Il y a de plus en plus de violence chez la jeunesse. Et quand on balance des films comme ça, les réalisateurs, ils n'ont qu'à assumer. On ne peut pas montrer.
C'est un film de boxe, c'est pas
grave. Mais non, mais ce qu'on montrait, du temps de Rambo ou je ne sais quoi, on n'avait pas les mêmes mentalités. Maintenant, on devient... Les jeunes se retrouvent dans ces salles de cinéma pour aller s'affronter, ça leur donne un sujet. Et ensuite, les réseaux sociaux que tu défends tant, mon cher Kevin, TikTok, etc. Et ça sert, ça nous
interdit
tout, ça.
T'interdis les films, TikTok.
Mais bien sûr, mais attendez les amis. Mais
on passe que des dessins animés.
Et alors quoi, on passe la journée à se foutre sur la gueule sur les réseaux sociaux et dans les salles de cinéma.
C'est pas le film qui est responsable.
Ah bon,
c'est les gens qui sont responsables.
Bah oui, mais ça attise la haine. Attends, t'as affaire à des gamins.
Film de boxe.
Mais tu as vu les gamins qu'il y a dans ces salles, Olivier? Ne dis pas le contraire.
Anne-Sophie Saint-Père, on est un peu l'émission de l'interdiction aujourd'hui. Faut interdire ce genre de film?
Bon, alors moi non, là pour le coup, je vais pas être une fanatique de l'interdiction. Surtout, je suis pas une fanatique du principe un fait divers, une loi. On va pas interdire ce film. Si, alors j'ai pas trop suivi ce qui se passait autour de ce film, mais bon, s'il y a des bagarres dans une salle de cinéma, il y a déjà des lois contre les violences. Il est toujours possible d'expulser les personnes de la salle. Donc non, on va pas.
Creed, c'est l'héritier de Rocky. C'est le fils d'Apollo.
Le fils d'Apollo Creed. Tu expulses la personne, le film il est foiré pour les gens qui normalement sont venus le voir, quoi. Parce qu'en fait il y a une jeunesse qui va voir ce film et qui fait n'importe quoi. C'est les salles sont pleines d'incivilité, les gens s'insultent. Toi arrête de parler, toi ceci, toi cela, ferme ta gueule, machin. Ils finissent par se battre. En fait le premier fait divers autour de ce film c'était il y a 10 jours. C'est un gars qui avec sa copine et elle a passé une heure au téléphone pendant le film.
Bah, c'est pas possible ça.
Donc déjà,
le film doit
se
pas être
dire
très
que
bon,
tu vas, on va tous les deux au cinéma et pendant une heure elle a son téléphone. Qu'est-ce que t'as dans la tête pour faire un truc pareil? Donc un gars s'est énervé et ça s'est fini en baston. Et puis derrière, il y en avait plein d'autres.
Cogolin dans le Var, la mairie, il y a une bagarre le week-end dernier à l'entrée de la salle pour ce film Creed 3 et le maire a décidé. C'est radical, d'interdire la diffusion du film pour une période de 15 jours. Il a pris un arrêté municipal.
Ça tient beaucoup à la sociologie des gens qui vont voir ce film.
Moi, de mon temps, c'était pas comme ça.
Je sais.
Point final.
Ça, c'est sûr que vous allez voir un film d'Éric Rohmer, vous n'étiez pas embêté.
Chose de la vie, on se battait pas en sortant.
On sautait. Formidable.
Il y avait quand même des gens.
À 14 ans, je suis allé voir Rocky 4.
J'adore avec Dolphin.
Tu t'es bien tenu.
Qui était le quatrième volet de cette saga qui n'en finit plus.
Les plus grands
Rocky 4. Rocky 4,
j'adore Rocky avec le russe.
C'est pas aussi un des plus mauvais, voyons.
Mais t'es dingue.
T'es fou, Rocky 3, Rocky 4.
1, 2, ok, mais après.
Ah non, bon, non, le 1, c'est
bref. Et effectivement, les jeunes, on était une bande de gens, on était un peu excités dans la salle, mais pas au point de, je sais pas, de
venir
se battre ou genre de truc. Enfin, c'est aberrant.
Alors, peut-être qu'ils se sont battus hier, c'est des supporters du PSG, on ne sait pas. En tout cas, on va parler.
C'est la butte pâte à tartiner, ça vous ramollit le cerveau.
On va parler du Paris Saint-Germain, extrait des RMC Sport. Hier, le PSG est-il un éternel perdant? Pas de miracle hier en huitième de finale de la Ligue des Champions face au Bayern. Défaite 2-0 pour les joueurs de Christophe Galtier qui n'avaient clairement pas le niveau pour espérer mieux, ce qu'a confirmé au micro des RMC Kylian Mbappé. Écoutez.
C'est fini! 2-0 pour le Bayern! 3-0 sur l'ensemble des deux matchs!
Ouais, Paris mais France, est éliminé
de la Ligue des Champions!
On est déçus. Maintenant, voilà, c'est comme ça. Il faut passer à autre chose. Quand on regarde l'état des deux équipes, voilà, ils ont une grande équipe, ils ont un grand effectif. Voilà, ils ont une équipe qui est bâtie pour gagner la Champions League. Nous, quand je l'ai dit en début de saison, à ma première conférence de presse de Champions League, qu'on allait faire notre maximum, c'est ça, c'est la vérité. Et voilà.
Voilà la déception de Kylian Mbappé, le PSG éliminé une nouvelle fois en huitième de finale de la Ligue des Champions. Mais moi j'y croyais quand même d'aller, je me disais bon pourquoi pas.
Pourquoi tu m'as pas demandé?
Mais parce que.
Si tu m'avais demandé, je t'aurais dit de pas y croire.
Ah vous, mais
ça
même
t'aurait
avant
économisé
match, pas.
une soirée triste.
Tu sais que ça t'a rendu furieux cette défaite.
Non, ça me rend pas furieux. C'est juste que je ne comprends pas comment chaque année tu peux refaire les mêmes erreurs en espérant que le résultat soit différent au final. Ouf. À partir du moment où tu recrutes mal. Tous les ans où tu as des dirigeants qui sont incompétents, un entraîneur qui n'est pas au niveau et des joueurs qu'on croit beaucoup trop forts par rapport à leur niveau réel, comment tu peux espérer que le niveau ça va changer et que tu passes?
Bah parce que tu dis Mbappé, il peut tout changer.
Ah mais oui, parce que le foot c'est un seul homme alors.
Bah, je suis d'accord avec toi.
Écoute, je pense que t'as fait du foot quand t'étais petite, moi aussi. On était 11 sur le terrain ou 7 quand c'était du foot en réduit. On m'a jamais dit le foot c'est avec une personne.
Mais il les a habitués à ça malheureusement. Bah, regarde ce qui s'est passé en finale de la Coupe du Monde, voilà.
Oui, mais c'est pas le PSG ça.
Je suis d'accord.
Et je signale que l'équipe de France, le bloc équipe, est bien plus fort que le bloc équipe du PSG. Donc on n'est pas dans un football individuel.
Ça vous a fait plaisir, vous, cette défaite Perico-Légas?
Oui, parce que cette arrogance suffisante du PSG, triomphant et dominant permanent, comme étant quelque chose de parti officiel, c'est bien qu'il y ait un petit peu. Voilà,
mais face au Bayern. Ça, c'est pas vrai, Perico, en fait.
Non, c'est ma perception, parce que j'y connais rien.
En fait, c'est les médias qui se trompent et qui donnent cette impression.
Bayern,
exactement, je l'avoue.
Exactement,
je l'avoue.
Ce que vient de dire Estelle. Moi, j'y croyais.
Je l'avoue.
En fait.
J'avais envie d'y croire.
Plein de gens qui se disent experts dans plein de médias et même des consultants qui en fait ne disent pas ce qu'ils pensent réellement parce que soit ils sont amis avec des joueurs, soit ils aiment bien l'entraîneur, ne disent pas réellement ce qu'ils ont au fond du cœur et donc entretiennent l'idée que ce PSG est fort avec des joueurs fantastiques, avec des stars qui sont en fait des starlettes. Et donc les gens se mettent à y croire. L'opinion se dit ah le PSG c'est formidable.
C'est vrai.
Et après ça provoque une réaction contraire.
Du néophyte, c'est la réaction du néophyte, pas la mienne.
Mais moi je comprends ton avis qui est de dire ah mais pour qui ils se prennent, eh ben tiens bien fait pour leur gueule, ils ont pris la porte dans la tronche. Alors que avec juste un petit peu de lucidité, et nous dans notre émission le soir on le dit très régulièrement, on dit mais comment pouviez-vous attendre un autre résultat sachant qu'encore une fois les dirigeants sont les mêmes. Vous avez changé celui qui fait le recrutement, il a été encore plus mauvais que ceux d'avant. Et l'entraîneur n'est pas au niveau. Et vous continuez de croire que les joueurs sont forts. Non.
Alors, est-ce que le Qatar peut vendre?
Qatar.
La Coupe du Monde au Qatar est passée. Donc,
le Qatar ne peut pas vendre, mais si le Qatar rachète Manchester United comme ils en ont envie, il y a certaines inquiétudes, parce que peut-être qu'ils mettront moins de sous dans le PSG. Qu'avec beaucoup de sous, ils n'y arrivaient pas. Avec moins de sous, c'est encore.
Et peut-être qu'ils voudront faire ils feront des achats plus intelligents.
On va se cotiser.
Exactement. Allez, dans un instant, la minute conso avec Stéphane Pedrazzi. Et mauvaise nouvelle, le prix des billets d'avion va très, très, très fortement augmenter. Stéphane nous en parle dans un instant. Ça donne le sourire à Anne-Sophie Saint-Père.
C'est une très bonne nouvelle.
Anne-Sophie, elle est contente. À tout de suite. Il faut baisser le train.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
13h50 sur RMC Story, vous êtes dans Estelle Midi et c'est le moment de parler conso avec Stéphane Pedrazzi, c'est parti.
RMC Estelle Midi,
la minute conso.
Et vous venez encore avec une mauvaise nouvelle, Stéphane, sur ce plateau, la mauvaise nouvelle.
Il n'y a que ça.
On l'a appris hier, c'est la hausse des tarifs des billets d'avion ou de train pour cet été. Il va falloir se dépêcher parce que les prix sont en très très forte augmentation par rapport à l'an dernier.
Ouais, 22,5% déjà d'augmentation en janvier selon les relevés de la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile. Et selon le site de réservation Liligo, les tarifs sont surtout en train d'exploser pour la période estivale. C'est-à-dire si vous réservez aujourd'hui des vols pour cet été, vous Vous avez des augmentations de l'ordre de 41% pour Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, 41% également si vous souhaitez aller à Montréal, 28% pour aller à Saint-Denis de la Réunion. Là, effectivement, c'est déjà cher à la base. Les tarifs sont en très forte hausse en fait sur pratiquement toutes les destinations à cause de la flambée des prix du kérosène. Des tarifs qui, on le rappelle quand même, pour l'avion avaient déjà grimpé l'an dernier de 21,7%, je crois. Exactement.
Mais il paraît que le tarif du kérosène a baissé, le prix du baril est super faible, donc pourquoi ça baisse pas?
Ça, c'est vrai. Le prix du baril a reculé de 27% en l'espace d'un an. On était à 112 $ le baril en mars l'année dernière. On est à 82 ce matin. Mais en fait, cette baisse, les compagnies aériennes n'en profitent pas vraiment parce qu'elles achètent leur kérosène à l'avance à un prix négocié. C'est une sorte de protection pour les compagnies aériennes. Donc l'an dernier, ça leur a été favorable. Elles ont finalement payé le kérosène relativement bon marché grâce à ces contrats qu'on appelle des contrats de couverture. Mais cette année, ça joue dans l'autre sens. Le tarif qui a été négocié pour 2023, il tient compte de la hausse de 2022. Ah. Et donc, effectivement, sur un an, même si le prix du pétrole est en baisse, les compagnies payent la facture de carburant beaucoup plus cher. Sachant que le carburant, ça représente en moyenne 18% du prix d'un billet pour une compagnie classique, comme Air France, et jusqu'à 35% pour une compagnie low cost.
Mais est-ce que les compagnies aériennes n'essaient pas aussi d'en profiter en augmentant, par exemple, leurs tarifs pendant les vacances, ou même quand il y a grève? Vous savez, quand il y a grève de la SNCF, vous voyez vos tarifs de billets d'avion flamber, quoi.
À ton avis?
Bien
sûr que si.
Et elles le font tout le temps et depuis des années en fait. Ça a un nom, ça s'appelle le yield management, c'est-à-dire qu'on ajuste le prix en fonction de la demande. Et donc évidemment, quand il y a beaucoup de demandes au moment des vacances pour les destinations touristiques, le prix des billets explose. L'an dernier, par exemple, on avait eu une hausse de 43% sur la période estivale pour le prix des billets de l'avion. Alors évidemment, on comparait avec l'année précédente où il y avait des restrictions de vol, mais la hausse était conséquente et ce sera de cet ordre de grandeur a priori pour cet été, parce que les compagnies aériennes, elles essayent de rembourser leur dette. 200 milliards de dollars de dette cumulée pour toutes les compagnies aériennes pendant la crise sanitaire. Un avion au sol coûte de l'argent. À partir du moment où un avion ne vole pas, il coûte de l'argent.
Parce qu'ils ne volaient pas pendant la crise. On est en train de voyager, Perico.
Et donc aujourd'hui, elles essayent de rembourser leur dette. Alors évidemment, elles en profitent, ça, c'est cette bonne guerre. Mais il y a quand même une grosse ardoise à rembourser.
Alors comme on est malin, on se dit, c'est pas grave, on va pas prendre l'avion, on va prendre le train. Mais le train aussi, c'est cher.
C'est écolo.
Prendre le train?
Oui.
Bien sûr, et c'est là-dessus qu'il faudrait faire un effort, qu'il y ait une tarification qui soit sociale, environnementale, et donc on paye plus cher les moyens polluants et moins cher ceux qui polluent moins.
Alors effectivement, on peut prendre le train. Je vais quand même te donner une info, c'était dans la presse ce matin, il paraît que le futur de la carte avantage qui permet de plafonner les tarifs à la SNCF n'est pas garanti. La SNCF réfléchit actuellement au futur de cette
manifester.
Carte. En ce moment, tu peux y aller dans la rue, il y a du monde, tu peux aller manifester avec eux.
S'ils veulent perdre du fric, ils continuent comme ça.
Bien sûr.
En tout cas, les billets de train sont souvent plus chers que les billets d'avion sur certaines destinations nationales. Oui. Alors la SNCF a ouvert hier les réservations pour la période d'été, donc ça va du 8 juillet au 3 septembre. Vous connaissez l'astuce, il faut être les premiers, il faut se jeter à 8h du matin sur le clavier de l'ordinateur. Oui. Et alors avant, on pouvait acheter le billet longtemps à l'avance en se disant je le changerai parce qu'on pouvait échanger jusqu'à 3 jours du départ et ça coûtait 15 €. Mais Perico est en colère parce que
6 jours et 19 € de pénalité par billet.
Donc effectivement, acheter jour. En se disant je pourrais toujours changer à la dernière minute,
ça tue la flexibilité du commerce.
Et puis évidemment, les prix des billets de train ont augmenté sur les TGV, les intercités en janvier, plus 5%. Attention, c'est une moyenne sur certaines destinations, la hausse peut être plus importante. Alors évidemment, c'est moins important que la hausse du prix des billets d'avion. Si vous avez prévu de voyager en train cet été, pensez-y, il y a toujours Trenitalia sur Paris-Lyon, mais surtout, il y a Renfe qui va arriver, notamment au départ de Marseille, pour aller à Barcelone, entre autres. Et si vous habitez Marseille, attendez le lancement de Renfe, parce qu'ils vont le faire avec des promos, ça paraît évident, on n'en sait rien, mais il y a quand même de fortes chances.
Est-ce qu'il y a quand même des conseils pour payer moins cher, Stéphane?
Oui, alors, je vais un peu enfoncer des portes ouvertes, mais réserver longtemps à l'avance, ça, on le sait tous, ça marche. Non, mais certains disent encore, à la dernière minute, on peut avoir des prix intéressants. C'est vrai, sur les sites de réservation de dernière minute, à condition d'acheter un package, c'est-à-dire l'avion plus l'hébergement, et c'est pas forcément sur des compagnies régulières, donc avec tout ce que ça implique. Essayez de pas voyager le week-end, les locations de vacances, c'est du samedi au samedi généralement. Si vous arrivez à voyager un mardi ou un mercredi, vous allez payer votre billet d'avion beaucoup moins cher, ça généralement c'est efficace. Comparez les compagnies aériennes, toutes les compagnies, et pas uniquement les low cost. Si vous avez l'habitude de voyager avec, je dis n'importe quoi, mais EasyJet, Transavia, quand vous avez ajouté les bagages, tous les frais supplémentaires, parfois il y a des compagnies traditionnelles qui sont moins chères, donc il faut vraiment tout comparer. Et puis on en avait parlé, il y a le fameux billet congé payé de la SNCF. Alors il faut prendre 3 jours de RTT pour le réserver parce que ça prend vraiment beaucoup de temps, mais c'est valable pour les trajets de plus de 200 km une seule fois par an, mais avec toute la tribu, il n'y a pas de limite. Si vous avez 15 enfants, ça fonctionne pour les 15. 50% de réduction si vous payez la moitié en chèque vacances. Allez voir sur le site de la SNCF, vous avez une liste de pièces longue comme le bras. Mais si vous avez le temps, vous allez faire des économies. Ouais.
Merci beaucoup Stéphane Pedrazzi. Tous les jours, la Minute Conso dans Estelle Midi aux alentours de 13h50. Et puis bien sûr en podcast. Évidemment, vous retrouvez Stéphane à toute heure du jour et de la nuit sur rmc.fr, sur l'appli RMC et sur vos applis de téléchargement. Dans un instant, on va parler de l'emploi des seniors en France. Est-ce qu'il faut interdire, décidément, le licenciement des seniors dans les entreprises? A tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.